Alors, je suis en compagnie de Patrick Viau. Après avoir débuté sa carrière à la Banque nationale en tant que directeur du développement hypothécaire, il a ensuite travaillé dans le domaine ferroviaire sur le projet de réparation de la voie ferrée de Lac-Mégantic et pour Agritex Saint-Polycarpe, pardon si je prononce mal, comme technicien en machinerie agricole. Monsieur Viau est de retour depuis peu dans le monde du courtage hypothécaire et il se présente aujourd'hui pour le Parti conservateur du Québec dans la circonscription de Châteauguay. Vous allez bien?
Ben oui, ça va très bien, et vous?
Oui, merci d'avoir accepté notre invitation.
Ben, ça me fait plaisir.
Alors, ma première question, elle est toute simple. Quelles sont les valeurs du Parti conservateur du Québec en matière de santé?
Oui, merci de la question. Quand on parle du Parti conservateur, on parle d'un parti qui a une vision de soutenir l'acte dans tout, que ce soit au niveau de la santé. On veut donner une place au privé en santé pour mettre une compétition entre le public puis le privé. J'ai regardé vendredi passé, le taux d'occupation là, à la berge est à 192%. Donc ça veut dire qu'il y a 64 civières d'utiliser d'entasser à l'urgence, là où il devrait en avoir un maximum de 32. Moi, je crois que c'est complètement inacceptable comme situation. Ça fait longtemps, là, ça fait une quarantaine d'années, même plus, là, qu'on continue à faire les choses de la même façon en espérant le même résultat. Donc, nous, au Parti conservateur, ce qu'on propose, c'est très, très simple, c'est que en ce moment, le système de santé est à deux vitesses. Si vous avez de l'argent, vous en allez au privé, puis vous êtes en mesure d'avoir vos soins. Nous, on dit, dans un délai raisonnable, d'environ 90 jours, vous n'avez pas eu droit à votre opération parce que vous n'avez pas été pris en charge par le système de santé, vous allez au privé, pas on rembourse, mais on paye la facture. Parce que l'État est déficitaire de donner le service. Donc, à ce moment-là, c'est pas aux citoyens d'en payer la note. On devrait tous avoir droit à un système de santé égal. Puis c'est ça, subventionner l'acte, puis subventionner les actions concrètes des gens et non pas un système qui est... C'est un beau système de santé. Là, quand on est pris en charge au Québec, là, c'est vraiment bien. Mais par contre, les délais sont tellement grands à cause de la bureaucratie puis à cause de l'administration. On veut ramener la décision, décentraliser les décisions. Donc, ceux qui vivent leur réalité vont pouvoir apporter leur projet puis prendre les décisions en conséquence.
OK. Donc, si je comprends bien, un citoyen qui va à Anna-Laberge, qu'il y a trop d'attente, pourrait se rendre au privé, se faire soigner, puis c'est l'État qui rembourserait les soins.
En fait, je vais donner un exemple. Si vous êtes en attente d'une opération, en fait, ça, c'est le cas le plus probant. Souvent, il y a des délais d'attente de un an et demi et même plus. Là, on l'a vu récemment là, dans les nouvelles un peu. Nous, on dit 80 jours, c'est le délai maximum. C'est inacceptable d'attendre plus que ça. Premièrement, l'acte médical va coûter moins cher parce qu'on va agir en amont. On va pas attendre que la personne soit insoignable, on va traiter d'abord, cette personne-là va pouvoir guérir rapidement, revenir sur le marché du travail et être traité, contribuer à notre économie. Donc, c'est un win-win pour l'État puis pour la personne, là, surtout.
Vous travaillez aussi dans le milieu du courtage hypothécaire.
Oui.
Vous êtes élu aux élections du 3 octobre prochain. Avez-vous des solutions pour contrer l'inflation et donner la chance aux citoyens d'avoir comme objectif l'achat d'une propriété? On sait à quel point en ce moment c'est difficile pour tout le monde. L'inflation, elle touche toutes les familles. Qu'est-ce que vous comptez faire?
C'est une excellente question. On va se le dire, à la base, le gros problème de l'inflation, il y en a plusieurs. Il y a la surenchère qui a eu lieu à cause de la spéculation immobilière. Les gens, pendant la pandémie, ont sorti des grandes villes et sont allés en télétravail là, à la maison, ce qui a fait qu'il y a eu une explosion là, des coûts dans le marché, mais pas simplement dans la région de Montréal et ses alentours, mais vraiment partout là, au Québec. En fait, il y a des mesures concrètes qu'on veut faire. Et puis, le problème est beaucoup plus d'ordre fédéral, mais ce qu'on peut faire, nous, concrètement, là, au Parti conservateur, c'est de redonner plus d'argent dans les poches des citoyens. On propose des baisses d'impôts là, assez substantielles qui vont permettre aux gens d'avoir de l'argent directement dans leurs poches. Et on propose aussi de couper la taxe sur l'essence de 20 sous le litre. Donc, ça peut pour quelqu'un là, qui a une dépense environ de 5 000 $ par année là, d'essence, on parle d'un 1 000 $ de plus dans leur poche. Donc, juste en partant, c'est des gestes concrets. Éliminer aussi la TVQ sur les biens de consommation usagés, ça va permettre aux gens de justement avoir une meilleure empreinte écologique dans un sens, parce que utiliser un bien usagé, c'est beaucoup mieux de l'étirer dans le temps que de changer, je vais donner l'exemple d'un véhicule, à toutes les 2 ou 3 ans. Concrètement, ça ramène de l'argent dans les poches des citoyens qui vont être en mesure de passer ce moment difficile-là. Il y a une correction de marché qui était prévue là, par Desjardins. Je vais en donner un exemple. Il parlait d'un 15 à 17 % sur le coût des habitations. Mais qu'est-ce qu'il faut bien comprendre? C'est que lorsqu'il y a eu surenchère là, au Québec, les évaluations bancaires, je vais vous donner un exemple, la banque disait que ça valait 400 000. En fait, il y a certaines personnes qui ont payé 450, 475 000, même jusqu'à 500 000 $ et même plus là, dans certains cas. Ces personnes-là, s'ils vendent leur propriété dans un avenir rapproché, risquent d'être beaucoup plus affectées par la baisse puis la correction de marché. Parce que la banque, lorsqu'elle fait une évaluation, moi je sais, je suis en première ligne là, comme courtier hypothécaire, c'est extrêmement conservateur comme valeur. Donc, ils ont déjà prévu ces hausses-là. C'est les gens qui ont fait des spéculations immobilières qui vont être le plus touchés. C'est dommage, mais c'est une réalité. Donc, je vais encourager les gens à garder leur propriété jusqu'à temps que le marché se restabilise. C'est une des solutions là, qu'on peut faire, là, qu'on peut concrètement réaliser.
On peut pas parler d'inflation puis de l'achat à la propriété sans parler de la crise du logement. Mmh. Qu'est-ce que le Parti conservateur du Québec pense de ça? Quelles sont vos valeurs et qu'est-ce que vous comptez faire pour la crise du logement? Est-ce que vous reconnaissez le problème?
Ben oui, il y a un problème, c'est drastique. En fait, on peut lancer la balle à toutes sortes de choses. On peut dire que c'est parce que les petits propriétaires qui ont un duplex, un triplex ont augmenté les loyers de manière significative, mais faut pas oublier une chose, c'est que les taux d'intérêt ont augmenté drastiquement, les valeurs de maison ont augmenté drastiquement. Nous, au Parti conservateur, là, ce qu'on propose, c'est de subventionner l'acte, je l'ai dit là au début, ce n'est pas de subventionner le béton. Par exemple, dans les HLM, nous, ce qu'on propose comme situation, c'est pour aider les personnes qui sont vraiment en première ligne, qui ont vraiment un besoin criant d'être logées à un prix modique. Au lieu de subventionner le béton, qui a une dépréciation puis qui a des coûts de gestion énormes là, à travers de ça, qui est géré par un fonctionnaire, qui n'est pas géré par un entrepreneur, pourquoi on ne donne pas le montant à la personne qui en a besoin pour être capable de se loger adéquatement puis dans des conditions intéressantes, dans un logement qui va être adapté à ses besoins, bien sûr, mais qui n'est pas subventionné par l'État?
Pour l'environnement, le choix d'y aller.
Ben oui.
Parlons d'environnement. Votre chef s'est quand même beaucoup fait critiquer aussi là-dessus parce que, si je ne me trompe pas, Éric Duhaime disait qu'il voulait extraire nos matières ici au Canada. Qu'est-ce que vous pensez sur l'environnement? Quels sont les plans du Parti conservateur du Québec en matière d'environnement?
Ben en fait, on est le parti qui, quand on réfléchit vraiment à la ligne de conduite, on a fait vraiment une introspection sur nos valeurs puis on s'est dit, OK, on veut faire un changement énergétique, on veut aider la planète. Bon. Comment on peut faire ça? On a parlé d'électrification des transports. Écoutez, l'électrification des transports, c'est un beau concept. Par contre, présentement, il y a toujours une demande mondiale qui croît juste pour les 50 à 60 prochaines années. La croissance de demande pour l'essence va continuer d'augmenter. Comment on peut faire pour réduire notre empreinte écologique? Bien, couper la taxe sur les biens de consommation usagés, là, c'est une des façons de faire les plus efficaces. Je vais prêcher par l'exemple, moi-même, j'ai un camion, puis j'avais une BMW, un gros moteur, puis je me suis remis en question moi-même, j'ai vendu ma voiture, puis je me suis acheté un véhicule usagé qui avait 10 ans d'âge, qui n'avait pas beaucoup d'options. J'ai réduit mon confort personnel, mais j'ai une bonne empreinte sur l'environnement. Puis sur,
je l'ai fait pour des raisons écologiques.
Je l'ai fait pour des raisons écologiques, mais aussi financières, je vous dirais, parce que... Ce véhicule-là me permet de me déplacer avec une consommation intéressante, puis l'empreinte énergétique sur le véhicule, il y a passé 10 ans, mon empreinte, elle est beaucoup moindre que d'acheter un véhicule neuf, puis de le faire venir, un exemple, d'un autre pays par transport. Ça, c'est une chose, mais c'est qu'on calcule pas bien l'empreinte éco-énergétique. On dit ce qu'on fait au Québec. On dit on veut l'électrification des transports, mais on n'est pas prêt à avoir une mine en arrière de chez nous. Donc, la question, c'est comment on peut faire pour financer notre transition énergétique. Puis ça, la Norvège a été une belle exemple de réussite. Là. Elle a décidé d'exploiter ses hydrocarbures, mais elle a financé avec les profits de cette exploitation-là, sa transition énergétique. Puis nous, au Parti conservateur, on croit encore qu'on doit financer l'acte. Puis ça, c'est une belle façon de transiger. On ne veut pas imposer 100 milliards de promesses là, dans notre parti. On dit qu'on veut avoir une stabilité budgétaire assez intéressante, mais être capable puis en mesure d'avoir une transition éco-énergétique. Puis la seule façon de le faire, c'est d'exploiter nos hydrocarbures afin de financer cette transition-là.
Vous avez parlé de promesses. Le Parti conservateur du Québec promet des grandes baisses d'impôts. Le cadre financier du PCQ prévoit notamment des réductions d'impôts de 29 milliards de dollars sur 5 ans.
Mm-hmm. C'est extrêmement réaliste. Puis si on approfondit la pensée, on est le parti qui propose le moins au niveau des promesses électorales. Quand je pense à Québec solidaire qui est rendu au-dessus de 100 milliards de promesses, en disant toujours qu'on va taxer les plus riches, il y a une limite à ça, il y a une limite à taxer les gens. À un certain point, est-ce qu'on contribue pas à augmenter l'inflation de cette manière-là? Pourquoi on n'utilise pas une manière qui est assez simple? Alors, regardez Hydro-Québec, là, c'est un beau succès. On exploite notre énergie, puis on fait des profits avec ça. On est capable de développer d'autres projets. Pourquoi on fait pas la même chose au Québec? Pourquoi on développe pas nos hydrocarbures? Ce qui va nous permettre de financer plusieurs projets au niveau de la transition énergétique, mais qui va nous aider aussi à avoir une stabilité budgétaire. Le Parti conservateur, on a un budget qui est sain et qui amène l'équilibre budgétaire là, dans un délai quand même raisonnable.
Le Parti conservateur du Québec, c'est un nouveau parti, entre guillemets, qui vient de renaître au sein de la politique. Pour ceux qui ont du mal à suivre un peu ce qui se passe ou de comprendre, c'est quoi les principales valeurs du parti?
Bien, en fait, nous, au Parti conservateur, on croit que, tout d'abord, l'État a pris beaucoup de place là, dans nos vies. On l'a vu à travers la pandémie, mais même avant ça, on s'en l'a constaté. Nous, on croit à la responsabilisation des gens, à l'éducation des gens, à l'information des gens. Puis on se fie au bon jugement que les personnes vont être assez responsables pour prendre les actions nécessaires en ligne avec ce qu'on propose. On croit à la liberté d'expression, mais aussi à la liberté individuelle et collective. Par contre, ce qu'on oublie de dire, c'est que la liberté emmène des responsabilités. Donc, nous, au Parti conservateur, on veut responsabiliser les gens. Je vais vous donner un exemple. C'est pas normal que sur une extension là, qu'on branche dans le mur, là, ben, il y a un petit collant dessus qui dit « Ne mordez pas le fil électrique ». Parce que c'est déjà arrivé. Il y a quelqu'un qui a mordu le fil électrique, qui a pogné un choc et a actionné la compagnie. Maintenant, la compagnie met des avertissements. De plus en plus, on en voit là, de toutes sortes. Là. J'ai vu sur un porte-bébé, ne pas lancer le porte-bébé si le bébé est à l'intérieur. Moi, quand je me suis levé là, puis que j'ai décidé de représenter le parti, c'est parce que ces valeurs-là me rejoignaient. Je me suis dit, écoutez, j'aime pas la direction dans laquelle on s'en va. On infantilise les gens. On leur donne une ligne de conduite. On dit, il faut vous rentrer à telle heure, il faut vous faire telle chose, il faut que vous ayez posé des actions concrètes. Mais on leur dit quoi faire au lieu de les encourager à travailler dans le même sens que nous. On amène des valeurs qui sont punitives, qui sont encadrantes. Je vais vous donner un exemple, la loi 101. Nous, on est contre la loi 101. On croit que c'est une mesure qui est vraiment coercitive puis qui donne pas le goût aux étrangers qui viennent dans notre pays de s'adapter avec ça. On croit que les gens devraient parler la langue qu'ils veulent à la maison. C'est pas à l'État à s'ingérer là-dedans. Par contre, on veut travailler avec le français quand même au Québec. On veut que le Québec soit francophone, mais c'est dans l'approche. Ben en fait, oui, mais c'est nécessaire parce que c'est dans l'approche. C'est pas en disant à quelqu'un « Fais pas ça » que ça va l'encourager à ne pas le faire. On va plutôt lui démontrer la valeur ajoutée, ce qu'il peut gagner à apprendre avec les gens qui parlent en français, mais ce qu'on peut prendre aussi de ces personnes-là, ce qu'ils peuvent nous apporter comme valeur, ce qu'ils peuvent nous apporter comme expérience de vie. On a un manque de personnel incroyable dans le domaine de la santé, dans l'éducation.
Pénurie de main-d'œuvre. Oui. Comment le Parti conservateur du Québec compte régler ça?
Il y a plusieurs choses. Il y a beaucoup de gens qui ont parlé de seuil d'immigration. Si on n'a pas les services pour s'assurer que ces gens-là soient bien intégrés au Québec, qu'est-ce qu'il peut arriver? Il peut arriver que ces gens-là se retrouvent, un exemple, sur l'aide sociale pour une période longue, puis peut-être même très, très, très longue. C'est pas quelque chose de gagnant, ni pour la personne, ni pour l'État qui l'a apporté ici. Nous, on dit qu'on doit aller chercher les gens qui ont une expérience dans ce qu'on a besoin ici. Donc, on veut travailler fort avec les collèges, un exemple des médecins, et puis les écoles ici, pour être en mesure de faire des reconnaissances d'acquis de ces personnes-là. C'est une solution qui est quand même même simple, mais qui est ardu à discuter avec, avec les établissements en place. Mais nous, Parti conservateur, on croit vraiment en l'acte. Puis il faut agir, il faut aller de l'avant, puis il faut travailler, puis jamais abandonner sur le fait que... Un exemple, un professeur de français en France qui arrive ici. Maintenant, on a des noms reconnus là, qu'on va dire, mais... sera pas reconnu pour son travail, mais il est quand même professeur, il est quand même de français et en France. Donc, je vois pas quelqu'un d'autre mieux placé, là, comme je parle de comme nouvel arrivant, pour enseigner le français à l'école. C'est un exemple. Il y a des infirmières qui sont pas reconnues quand ils font la transition aussi. Il y a des médecins. C'est un gros enjeu. Puis nous, au Parti conservateur, on propose justement de travailler fort dans ce sens-là pour que les gens qu'on va apporter ici soient... qui fassent partie de la solution, qu'ils soient pas exclus, qu'ils soient pas mis à part parce que on met des lois qui sont punitives puis qui sont encadrantes trop strictes. On veut leur donner le goût de venir ici au Québec.
On va revenir à la municipalité de Châteauguay. D'après vous, quels sont les principaux enjeux de la circonscription pour laquelle vous vous présentez?
Bien, il y a plusieurs enjeux ici. Il y a un problème au niveau transport en commun. Il y a un problème au niveau de la connexion entre Châteauguay et Montréal. Un exemple, le pont Mercier, il n'y a pas de voie cyclable. Ça serait vraiment quelque chose qu'on pourrait apporter comme idée de parler avec le fédéral puis de voir s'il n'y a pas une possibilité de travailler dans ce sens-là. Il y a aussi le fait que Châteauguay desservit en eau plusieurs municipalités de la région. Puis je vais vous donner un exemple à Mercier. À Mercier, il y a un problème de lagune. Ça fait depuis les années 60 qu'ils ont ce problème-là. Puis le gouvernement a reconnu ses torts là, dans cette situation-là. Pourtant, rien n'est fait pour régler ce problème-là. Puis ce problème-là, là, c'est la plus grosse catastrophe environnementale de contamination d'eau potable en Amérique du Nord. Ça s'est jamais vu. Il y a un comité de scientifiques qui était prêt à travailler de manière pro bono pour être certain apporter des solutions là-dessus concrètes. Le gouvernement, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'en est lavé les mains. Il ne contribue plus à la solution. Nous, on pense au Parti conservateur qu'on doit responsabiliser les gens, mais on doit se responsabiliser en tant qu'État aussi. On ne doit pas laisser les municipalités payer la facture d'une erreur qui vient du gouvernement. Ça, c'est un exemple. Mais il y en a plein d'exemples de choses ici. La hausse des coûts des propriétés, qui était un enjeu là, partout ici. Si on ne donne pas de l'argent dans les poches des contribuables, comment voulez-vous qu'ils puissent passer au prochain niveau? Ils sont toujours en mode survie. Ils ont besoin d'être en mode croissance personnelle puis financière aussi.
Finalement, pourquoi les citoyens de la municipalité de Châteauguay devraient voter pour le Parti conservateur du Québec, puis pour vous, Patrick Viau? Pourquoi on devrait vous élire?
Bien, écoutez, moi, j'ai rencontré tous les candidats ici, là, dans la circonscription. Je peux vous dire une chose, les gens ici sont là pour les bonnes raisons. Ils croient tous en ce qu'ils proposent. C'est des gens intègres que j'ai pu rencontrer. Je les respecte beaucoup. Ça prend beaucoup de courage là, pour se présenter en politique. Moi, je vous dirais, dans ma carrière en ce moment, j'ai tout à gagner à rester à mon travail. Financièrement, c'est ce qui est le mieux pour moi stratégiquement, au niveau de ma vie familiale aussi. Mais je vous donne un exemple. Ma femme est infirmière. Là. Elle travaille en santé mentale. Elle travaille à l'hôpital de Valleyfield. Ma mère est travailleuse sociale. Elle travaille beaucoup dans la région de Châteauguay. Il y a des problèmes criants. Depuis la gestion de la pandémie, ça a été exorbitant le nombre de problèmes qu'on a sortis. L'isolation des gens a créé des gros troubles de santé mentale. Il y a une mauvaise gestion des hôpitaux, mais ça date pas, mais c'est de pire en pire. En fait, il y a beaucoup d'enjeux là, dans le coin, puis à un moment donné, l'État doit changer son approche, doit changer son fusil d'épaule. Puis moi, je crois qu'il y a une alternative intéressante. Si on fait les choses de la même façon depuis le début, sans arrêt, puis qu'on continue de les faire de la même façon, puis il n'y a rien qui change, à un moment donné, là, il faut donner une alternative aux gens. Puis nous, on croit à la liberté, first of all, et les responsabilités qui viennent avec. Mais on croit aussi qu'on peut ensemble subventionner des actes et non pas des systèmes qui sont déconnectés de la réalité des gens. Moi, je veux m'engager à travailler avec les élus municipaux, avec les chefs religieux, avec les postes les directeurs de police, avec les directeurs de services d'incendie qui viennent me parler de la réalité, aller voir les citoyens sur le terrain. Je veux être accessible pour mes citoyens. Je veux être là, à l'écoute. Je veux qu'ils viennent me parler de leurs enjeux, puis je vais être là pour les représenter parce que j'en connais beaucoup des enjeux, mais je ne les connais pas tous. Puis je vous invite à venir me parler, venir me dire ce que vous vivez, puis je suis sûr qu'ensemble, on va trouver la solution qui va être complètement différente de tout ce que vous avez vu jusqu'à présent.
J'ai une petite question pour vous, M. Villot.
Oui.
Vous venez de parler de travailler avec les gens de collectivité.
Oui.
En même temps, on parle beaucoup de liberté individuelle.
Oui.
C'est possible de mélanger les deux?
C'est très possible de mélanger les deux. Puis jusqu'à la pandémie, on avait un exemple de ça. On était capable d'avoir un deux poids, deux mesures. On était capable de respecter la liberté individuelle, exactement, et puis la collectivité. Puis moi, je suis pas en train de dire qu'il faut, privatiser la liberté individuelle au détriment de la liberté collective. Mais par contre, ce que je trouve, c'est qu'on s'est servi de la raison de la liberté collective à tort et à travers, sans penser aux conséquences qu'on a créées, aux troubles de santé mentale qu'on a créés en isolant les gens, aux familles qui se sont divisées à travers de tout ça. Moi, je crois qu'il y a un beau message d'espoir à apporter aux gens, c'est que vous n'êtes pas seul. Si vous avez vécu des choses pendant toute cette période-là, vous n'êtes pas seul. Il y a des ressources, il y a des gens qui sont là pour vous aider. On veut s'assurer que vous ayez ces services-là. On veut s'assurer que vous reconnectez avec les gens, qu'il y ait place à un débat. Moi, là, la grande raison pourquoi je fais ça, c'est je veux amener, enfin, la possibilité aux gens d'être d'accord, de ne pas être d'accord, de ramener la place à un débat. Puis quand il va y avoir des gens qui vont parler d'une manière extrême, si on leur laisse la place de parler, ça va s'éliminer par eux-mêmes, ces personnes-là. Je trouve qu'on a manqué de débat là, pendant cette gestion. C'est ce que je reproche un peu au gouvernement en place, c'est qu'on a manqué de transparence puis de débat. Puis je crois qu'on doit rapporter l'esprit d'une opposition, une vraie opposition à l'Assemblée nationale. C'est notre rôle en tant qu'individu de se lever puis d'aller voter le 3 octobre pour le parti qui vous représente le mieux. Mais que vous votez pour moi ou contre moi, là, l'important, c'est que vous vous informiez d'abord complètement. Faites pas juste écouter les débats, allez lire les plateformes électorales de chacun des partis. Prenez une décision éclairée. C'est ça, responsabiliser les gens. C'est de vous-même prendre le temps d'aller faire les lectures. Pas vous fier seulement aux médias ou à ce que votre voisin vous raconte. Allez faire vos recherches, puis prenez la meilleure décision.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
C'était Patrick Viau pour le Parti conservateur du Québec dans la circonscription de Châteauguay.